Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois, je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast dont le but est de vous donner envie de voir ou revoir un long métrage à travers une conversation intime dans laquelle mon invité évoque sa rencontre et le lien fort tissé avec un film qui l'a marqué et qui est devenu à force de l'avoir visionné un film synonyme de souvenirs personnels ou bien une vraie source de vocation ou d'inspiration. Avant de vous présenter l'invité de ce nouvel épisode, un rappel important, si vous aimez l'émission et que vous avez envie de la soutenir et de la faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Je me ferai un plaisir de lire peut-être votre message, vous qui nous écoutez ici même en fin d'émission pour vous remercier directement. 16e épisode de votre podcast préféré dans lequel vous allez faire la connaissance d'Alice. Quasiment 5 ans après sa sortie au cinéma, la jeune Auvergnate a découvert un film de Christopher Nolan qui a pour nom Le Prestige. Ce visionnage s'est fait au début des années 2010 quand Alice, collégienne en classe de 5e, était en pleine recherche de moments d'évasion. La faute à une scolarité particulièrement douloureuse à vivre. Le hasard du calendrier fait que son témoignage résonne incroyablement fort avec l'actualité. À 21 ans aujourd'hui, ça lui tenait particulièrement à cœur d'évoquer le harcèlement scolaire dont elle a été victime durant 3 ans au collège. Ce n'est pas le plus facile des épisodes qu'il m'ait été donné de faire, mais le recul et la dignité avec laquelle mon invité parle de tout ça forcent le respect. Avec Alice, on a parlé de harcèlement scolaire, de racisme, mais pas seulement de choses lourdes, je vous rassure, puisqu'on a parlé de tours de magie, de Christian Bale, de Hugh Jackman, de la pub Lipton Ice Tea, de sabotage, de l'homme transporté ou encore d'aquarium. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec l'animatrice et créatrice du podcast cinéma Hors Champ, juste après un extrait de la bande-annonce du film Le Prestige.
Tire sur moi.
Non, je ne peux pas. Non, non. Mais comment tu fais ça?
Magie.
La façon dont je vais exécuter ce tour n'existe nulle part au monde.
Le public a adoré.
C'est un tour épatant. Un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau qui fera que les autres magiciens s'arracheront les cheveux.
Je suppose que toi, tu as ce genre de tour.
Sans aucun doute. Celui qui me rendra légendaire.
Que s'est-il passé?
C'était le meilleur tour que j'ai jamais vu. Il faut que je sache comment il fait.
Il n'y a pas de truc. Tout est réel.
Bonjour Alice.
Bonjour.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie.
Ça me fait très plaisir en tout cas. Merci de m'inviter.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. On va parler du Prestige, un film de Christopher Nolan. Mais avant de rentrer de plein pied pour en savoir un peu plus sur l'histoire que tu partages avec ce film, j'aimerais s'il te plaît, question traditionnelle, toujours la première, que tu m'exposes un peu de quoi parle le film et pour le faire, bon courage, parce que je crois que moi-même, j'y arriverai pas.
Le Prestige, on peut voir à l'affiche Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine. Nous sommes en Angleterre à la fin du 19e siècle. Alfred Borden, qui est interprété dans le film par Christian Bale, est un magicien qui est jugé pour l'assassinat supposé de son rival et ex-ami Robert Anger, qui lui est interprété dans le film par Hugh Jackman, et en fait qui s'est noyé durant un tour de magie dont l'exécution a mal tourné. Le film va revenir sur toutes ces années de rivalité qu'il y a eu entre ces deux hommes, ces deux grands magiciens. Une rivalité en fait qui va naître suite à l'accident mortel de la femme de Robert et qui se manifeste principalement autour d'un tour de magie qui s'appelle l'homme transporté. Et c'est vraiment en fait toute cette rivalité va se tourner autour de ce tour de magie-là. Qui va le réussir le mieux? Qui va trouver l'exécution parfaite, en fait, le prestige parfait pour réaliser ce tour, et tout ça avec comme toile de fond, on va dire, les recherches sur l'électricité. Pourquoi le film s'appelle Le Prestige? Le film a d'abord été adapté depuis un livre qui s'appelle aussi Le Prestige, et ce livre invente un certain protocole du tour de magie. Première étape de ce tour de magie s'appelle la promesse, c'est-à-dire que le magicien va montrer à son public quelque chose qui semble complètement ordinaire, mais qui en fait ne l'est pas. La deuxième étape, c'est l'exécution. C'est-à-dire que...
Le tour.
Oui, le tour en lui-même, c'est ça. Le magicien va rendre l'acte qui était ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, l'étape finale de l'illusion, c'est le prestige. C'est le moment où on est ébloui, quoi, en fait. Et tout le film va se tourner autour de ces trois étapes-là. Voilà.
Oui, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Le film est sorti en 2006, le 15 novembre, pour être précis. Pour compléter le casting, on peut citer Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Piper Perabo. Pour ceux qui ne voient pas, c'était Quiet Girls. Andy Serkis, le Gollum, entre autres. Et un certain David Bowie. Oui. Alors, ce film, à l'époque, n'a pas été vu par grand monde. Seulement 194 000 entrées en France, pour vous donner un ordre d'idée. 4 ans après, Inception, du même réalisateur, Christopher Nolan, a réalisé 4 925 000 entrées. Donc, il y a un vrai fossé. Il est pas passé sous mon radar, hein. Je dois avouer, je l'ai enfin vu pour le podcast, mais je l'avais jamais vu. Et aux États-Unis, ça a pas non plus été un franc succès. Donc, on sait que le film est sorti il y a 15 ans. Est-ce que tu l'as vu justement dans une période proche de sa sortie, ou est-ce que tu l'as découvert un peu plus tard?
Je pense que c'était 4 ans après sa sortie. Donc, à ce moment-là, j'étais au collège. J'avais, on va dire, entre 11 et 12 ans. Donc, entre 4 et 5 ans, on va dire, après sa sortie. Je sais plus exactement, mais j'étais dans cette période collège-là. Et j'habite, moi, dans une toute petite ville de campagne qui proposait des projections, vraiment les projections de salle des fêtes, avec un grand écran... qui projette le film, voilà, de très mauvaise qualité, mais c'était notre petit cinéma à nous, quoi. On n'a pas vraiment de salle de cinéma ici. C'est quelque chose qui se faisait avec des films qui étaient sortis un moment après la vraie sortie cinéma. On avait le droit à ces petites projections-là. C'était vraiment la seule chose, en fait, qui se faisait. J'étais vraiment dans un tout petit village, quoi. Il y avait mon collège, une petite école primaire et cette grande salle des fêtes. Je prends le prospectus, le programme, et je vois le Prestige, première... tête d'affiche, réalisée par Christopher Nolan, avec quelques noms du casting, l'affiche du film, et je vois « film de magie », écrit comme genre, en fait, et le genre du film est un film de magie. Et le petit résumé qu'on a, c'est un film découpé comme un tour de magie. Rien de plus sur ce film. Je ne savais pas si c'était vraiment un film de mon âge, je ne savais pas qui était Christopher Nolan, je ne savais pas qui étaient les acteurs.
Ça t'a toujours attiré, la magie? Quand tu voyais cette affiche, c'était justement quelque chose d'attractif pour toi, le fait de voir que ça parlait de magie, ou pas plus que ça?
En fait, j'étais dans une période où j'avais besoin de m'évader, où j'avais besoin de trouver quelque chose qui allait me distraire. J'avais vraiment besoin de me dire que je vais passer un moment où je vais être concentrée sur quelque chose, que ça soit visuellement ou de manière auditive, pendant 2 heures de film, et c'est tout. J'allais faire que ça. À cette époque-là, je connaissais pas vraiment les films, en fait. Je voyais les films à la télé, les films qu'on appelle les films famille, c'est-à-dire les films de comédie française qu'on regarde le week-end. J'avais pas vraiment une très grande culture cinématographique, je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'était un réalisateur, enfin, je veux dire, j'avais vraiment très peu de notions du cinéma. Un film, pour moi, c'était une histoire. Je prenais pas vraiment en compte tout le côté réalisation, tout le côté production, non. Pendant 2 heures, j'allais voir une histoire. Et quand je vois Tour de magie, c'est-à-dire que c'était vraiment les seuls indices que j'avais sur ce film, en lisant cette petite plaquette. Les autres choix, je me rappelle plus vraiment des autres choix, mais c'était vraiment le film qui m'attirait le plus parce que ça allait parler de magie, et la magie, pour moi, ben, c'est l'évasion, quoi. Et le but pour moi d'un Tour de magie, c'est d'essayer de comprendre comment il a été fait. Enfin, je veux dire, c'est... on est ébloui, mais on veut savoir comment ça a été fait. Donc c'est pour ça que je choisis ce jour-là d'aller voir ce film.
Donc là, tu t'installes, tu as fait ton choix, tu es dans une espèce, je vois très bien ce que tu décrivais, c'est une salle polyvalente en fait,
oui,
ça fait
ça.
Tout. Ça fait salle des fêtes, ça fait salle de cinéma, ça fait peut-être même des ventes diverses et variées, enfin, ce genre de choses, des petits marchés de Noël, ce genre de trucs. Tu t'installes dans cette salle, les lumières s'éteignent, le film est projeté.
Ouais.
Dans ta tête, tout au long de la projection, qu'est-ce qui traverse ton esprit ?
Honnêtement, j'arrive difficilement à me plonger dans l'histoire, parce que c'est une histoire, je m'en rends compte aujourd'hui en le revoyant, que c'est une histoire qui n'était pas faite pour mon âge. Je ne l'ai pas comprise, en fait. La première fois que j'ai regardé l'histoire, j'ai vraiment pas compris l'histoire. Mais il y a eu une sorte de... Le premier tour de magie qu'on nous montre dans le film, ça a été vraiment ce qui a fait que je me suis plongée dedans. Sans mauvais jeu de mots, parce que... Mais et ma seule pensée tout le long du film, c'est comment il fait. je ne savais pas qui étaient les acteurs. Pour moi, les acteurs, c'était les magiciens. Je ne les avais jamais vus avant. Pour moi, c'était eux qui faisaient le tour et l'histoire était réelle, quoi. Je veux dire, j'avais pas cette notion de cinéma. Et je me dis, mais comment ils font ? Mais est-ce qu'elle va mourir ? Comment elle va sortir de là ? Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Comment ça va se passer ?
Mais tu n'avais pas peur que le fait de révéler ses secrets gâchait finalement toute la... Sans vilain jeu de mots, la magie du spectacle et la surprise en tout cas.
Je savais que j'allais pas savoir la réponse, parce que pour moi, j'étais en face de deux magiciens, et les magiciens, ils ne révèlent jamais leur tour. C'est ce qui fait toute l'émotion autour de la magie. On est ébloui par ce qui vient de se passer, mais il y a une frustration qui naît parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se passer, justement. On s'est joué de nous, et on doit l'accepter, parce que c'est pas possible autrement, on ne saura jamais comment ça a été fait.
Tu peux le décrire, justement, pour les auditrices et les auditeurs, ce premier tour qui t'a subjugué ?
On est sur scène, tout simplement. Il y a une grosse bassine, caisse d'eau remplie. Et c'est une jeune femme qui va être l'élément principal de ce tour. Il y a un choix qui est fait dans le public, mais c'est un choix un petit peu manipulé parce que, bon, évidemment, on ne va pas confier à n'importe qui la vie de cette jeune femme. Donc, il y a un choix un petit peu organisé qui est fait. On choisit donc Alfred Borden dans le public qui vient nouer les mains de la jeune femme avec une corde, avec un certain nœud, etc. Cette jeune femme donc plonge dans l'eau, on ferme la caisse et le but évidemment c'est qu'elle puisse sortir et voilà. Mais comment elle sort ? Bah ça, on ne le sait pas. Toute la magie est là. On se pose énormément de questions, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va sortir ?
On recouvre l'aquarium.
Oui, c'est vrai, on recouvre l'aquarium.
On ne la voit pas s'échapper de celui-ci.
Oui, l'aquarium d'ailleurs. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ce mot-là. Mais
c'est pas grave.
On ne sait pas vraiment combien de temps ça se passe sur scène, mais c'est un moment qui est très pesant. Avec la musique, avec l'ambiance, avec les jeux de plans, les jeux de regard. On est dans un moment qui n'est pas agréable en fait. Ça nous angoisse. Comment elle va sortir ? Ben ça, on ne le comprendra jamais. Parce que c'est tout le tour, en fait. C'est toute la magie du tour.
C'est vraiment ce tour-là qui t'a happé et qui a réussi à te clouer à ton siège et à te dire « Oh, d'accord. » Même si le reste m'échappe, c'est cet élément-là qui m'accroche.
Pour moi, j'étais vraiment sur scène, quoi. En regardant le... J'étais dedans.
J'espère que tu n'étais pas à la place de celle qu'on plongeait dans l'aquarium, quand même. J'espère que tu n'as pas fait un transfert sur elle, parce que ça ne finit pas très bien.
Non, mais vraiment, j'étais dans le public, quoi. C'est-à-dire que j'avais de la magie, en fait, en face de moi. Les personnages, leurs noms, ça m'est complètement sorti de la tête. J'étais pas venue là pour ça. S'il n'y avait pas eu toute cette magie autour, je ne serais pas restée pour le film.
C'est marrant ce que tu dis, c'est vrai que tu étais toute jeune, mais pour recontextualiser, il faut savoir qu'on est en 2006, nous sommes pile entre deux Batman, il y a eu Batman Begins qui est sorti en 2005, puis le The Dark Knight en 2008, donc tu n'avais pas vu le Batman, tu n'as pas pu te dire, tiens ce comédien-là, c'est le Batman, ça fait bizarre de le voir en magicien. T'as même pas pu faire cette connexion-là.
Non, je vais te dire une chose, c'est que la seule connexion que j'ai pu faire, mais je l'ai faite après avoir vu le film, c'est quand j'ai vu Hugh Jackman dans la pub pour l'Ice-T.
Oui, où il faisait The Greatest Showman avant The Greatest Showman. C'est-à-dire que c'était vraiment, il se mettait à danser, à appliquer tout ce qu'il a appris dans le musical, quoi. On avait l'impression d'être au Tony Awards, donc au Molière locaux, mais dans une pub, donc c'était un peu too much.
Mais c'est ça, en fait, parce que pour le coup, c'était vraiment la seule référence que j'avais de cet acteur.
Ah ouais, c'est marrant, même pas dans les X-Men,
non.
Parce que comme les X-Men étaient plutôt accessibles pour les gamins...
Vous deux, vous irez voir ce spectacle. Et celui d'entre vous qui pourra m'expliquer le tour de l'aquarium magique sera récompensé.
D'accord. C'est-à-dire ?
10 minutes sur scène avec mon vieil ami, Monsieur Ackerman.
Vraiment ?
Qui est Ackerman ?
J'ai le meilleur agent de théâtre de Londres. Vous avez encore loupé votre nœud.
J'ai dû me fouler le poignet.
Certains soirs, vous avez du mal à comprendre, on dirait. Enfin, si ce nœud glissait pendant que Julia est sur le treuil, elle se briserait une jambe.
C'est pas le bon nœud. Je vous répète que le double Langford la tiendrait plus serrée.
Le double Langford n'est pas un nœud mouillé, c'est trop dangereux. Si la corde se gonfle d'eau, Julia ne pourra pas la faire glisser.
Je sais défaire le Langford sous l'eau.
Elle sait le faire et on peut s'entraîner.
Hey, Borden, il a dit non.
Ah oui, c'est vrai, vous y connaissez beaucoup mieux que moi en nœud.
Écoutez, ne faites plus d'erreurs.
D'accord. Alors, c'est ça ? Vous voulez mon boulot ?
Laissez tomber.
Je crois pas, non.
Mais tu as grandi dans un contexte où tu regardais que des films familiaux et tu ne pouvais pas te faire ta propre filmo, en fait.
Parce que ça m'intéressait pas, en fait, à cette époque-là. Pour moi, à ce moment-là, je regardais des films famille pour passer un moment en famille. Pour moi, le film était vraiment associé à un moment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'allais regarder des films à cette salle polyvalente-là parce que c'était ma sortie du week-end. Je regardais pas des films parce que j'étais cinéphile ou parce que le cinéma m'intéressait à ce moment-là.
C'était juste un moment de divertissement et on passe à autre chose.
C'est ça.
À ce moment-là, tu m'expliquais que tu es autour de 12 ans, donc normalement, tu es en 5e.
Ouais.
En sortant de la salle polyvalente, tu étais accompagnée de tes parents, je suppose ?
Non, j'étais toute seule.
Ah, t'étais toute seule, ouais. Ok. Mais ça devait être à côté de chez toi, alors.
Oui, oui. Vraiment, on parle d'un tout petit village.
D'accord, comme une grande, pourquoi pas. À la sortie de ce film, c'est marrant d'être seule, du coup. Tu étais dans quel état ? Est-ce que tu étais un peu sonnée par ce que tu as vu ? Est-ce que tu étais fascinée ?
Je me suis dit, mais comment j'ai pu rater ça ? En parlant encore du tour de magie. Parce que c'est vrai qu'à la fin du film, on nous révèle, comme un grand Christopher Nolan, quoi. On nous révèle l'élément qui nous manquait. Et tout le long, je me suis dit, en rentrant de chez moi, donc je rentrais à pied, je me dis, mais comment j'ai pu rater ça ? J'étais tellement dans le film que pour moi, c'était impossible de rater cet élément. À quel moment je l'ai raté ? Et vraiment, je pensais pas à ce film comme un bon moment. Enfin, ça m'a fait réfléchir et il s'est joué de moi, en fait. Je me suis dit, comment j'ai fait pour rater ça ? J'étais plongée dans le film et ça m'a complètement échappé. Ça a été vraiment, pour le coup, le déclencheur de plein de choses, parce que j'ai voulu me renseigner, j'ai voulu comprendre, en fait. J'ai revu le film un tout petit peu après, quand j'ai pu l'avoir en DVD, etc. Je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais analyser scène par scène. Je ne vais pas louper le moment où, en sachant ce qui m'attendait à la fin du film, mais pour le coup, je me dis, bon, bah maintenant, on va réfléchir, on va se poser, on va se dire, qu'est-ce que j'ai loupé, à quel moment ? Ah oui, mais dans cette scène-là.
Et justement, tu l'as fait dans quel ordre ? Est-ce que tu faisais d'abord des recherches sur le net ? Ou est-ce que tu as entrepris une recherche par toi-même, d'abord, en faisant du plan par plan ?
Bah déjà, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi sans le film. J'ai une mémoire assez bonne visuelle, donc je pouvais me rappeler un petit peu de ce qui se passait. Et donc, j'y ai repensé un petit peu. J'arrive à avoir le DVD, à m'acheter le DVD, je le revisionne, ce film.
On est combien de temps après que tu l'aies vu la première fois, là ?
C'était maximum une à deux semaines, pas plus.
Ah oui, c'est hyper rapide.
Oui, oui, c'était vraiment...
L'addiction était forte, là, à ce niveau-là.
C'était de l'obstination, quoi, on peut le dire. Mais c'était un petit peu par hasard que je l'ai acheté, parce que c'était un film que je connaissais, et en général, on était plutôt du genre à acheter des films en DVD qu'on avait déjà bien aimés. Qu'on avait déjà vu. On préférait d'abord le voir en salle ou dans cette petite salle polyvalente avant de l'acheter. Et là, je m'achète donc le Prestige parce que je sais que c'est un bon film et que ce film m'a beaucoup marqué pour le coup, pas forcément pour l'histoire, mais vraiment pour ce jeu de tour de magie. Et donc, j'arrive à le revisionner une deuxième fois. Cette fois-ci, pas toute seule. On a fait le film famille, pour le coup. Le Prestige est devenu le film famille.
Très bien.
Ouais.
Tu as converti tes parents.
Ouais, et mon petit frère aussi. Ils n'ont pas vraiment vu le film de la même façon que moi, parce que mes parents connaissaient déjà Christopher Nolan. Ils avaient déjà la petite culture cinématographique que je n'avais pas quand j'ai vu Le Prestige. Ils n'ont pas eu autant d'attachement à ce film, en fait, parce que pour eux, c'était un film de cinéma. Quoi. C'était un grand film de cinéma, mais ça s'arrêtait là. Et à la fin du DVD, il y a des bonus. Et donc, il y a eu un petit peu des making-of. Là, je vois que tout a été fait réellement, c'est-à-dire on n'a pas de trucage numérique comme on pourrait avoir aujourd'hui. Et j'arrive à comprendre enfin le tour. J'arrive à comprendre ce qui m'a marqué et ce qui m'a manqué aussi pour avoir la fin du film.
On a les explications, ça y est, t'as enfin toutes les réponses, en tout cas une grosse partie, à tes interrogations.
C'est un petit peu la spécialité de Monsieur Nolan, c'est qu'on a souvent des textes à trous et à la fin du film, en fait, va nous donner la clé pour qu'au second visionnage, on puisse remplir tous les trous et comprendre, en fait. Un film de Christopher Nolan ne se regarde jamais en une fois. Et ça, c'est applicable pour tous les films.
Je te rappelle que c'était censé être le sauveur du cinéma lors de l'année 2020 avec la sortie de Tenet durant l'été dernier. Et il est malin parce qu'il fallait le voir deux fois pour comprendre. Et je confirme totalement ce que tu dis. Un deuxième visionnage est obligatoire. C'est vrai que ça parcourt plutôt bien sa film.
Ouais, c'est ça. Et je veux dire, c'est vraiment pour le coup essentiel parce que ça marche vraiment sous forme de texte à trous où il faut remplir avec, avec un deuxième visionnage parce que justement, on connaît maintenant la fin et on n'est pas du tout sur un deuxième visionnage où on n'apprend rien. On va vraiment découvrir la deuxième lecture de ce film. Et donc, bah, j'arrive à comprendre ce que j'ai manqué. Certaines scènes ont plus de sens pendant la deuxième lecture. Je donne vraiment plus d'importance aux scènes que je ne considérais pas vraiment. Des scènes, par exemple, où Alfred Borden est avec sa compagne, où ils ont des disputes. Bon, premier visionnage, on ne donne pas vraiment d'importance à ça. Deuxième visionnage, ces scènes sont finalement importantes.
Complètement. On fait aussi un peu plus attention aux ingénieurs, à ceux qui aident à la conception des tours. Voilà, il faut vraiment avoir les yeux et les oreilles partout pour que s'imbriquent toutes les pièces du puzzle et que vous arriviez à le reconstituer en grande partie par vous-même. C'est pas toujours évident.
Non, ça c'est sûr.
Maintenant, tends la main. La balle n'est même pas dans le pistolet. Quand le coup est tiré.
Quand on le sait, cela paraît plus qu'évident.
Seulement, il y a toujours... C'est dangereux. Il arrive que certains se fassent tuer.
Mais comment ?
Eh ben, on peut tomber sur un petit malin qui met un penny ou un bouton, ou même... J'espère que Dieu m'en gardera, ou même une balle dans le canon. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pour la raison que je ferai en sorte que rien n'arrive jamais. Tout va bien se passer.
Je trouve ça hardcore, à 12 ans, de se plonger là-dedans, en fait. Enfin, faut vraiment être extrêmement motivé. C'était ton tempérament de chercher à comprendre à tout prix.
J'avais surtout besoin de trouver une occupation et de trouver un moyen de me distraire de ce qu'il y avait à l'extérieur.
Bah, on va y venir, justement. Ouais. Tu as une scolarité particulière, pas simple à gérer. Quelle collégienne tu étais, quelle fille tu étais à 12 ans, et comment ça se passait au quotidien, une semaine type avec Alice au collège, ça donnait quoi ?
Moi, j'étais quelqu'un de très réservé de base. J'étais bonne élève à l'école et j'étais vraiment pas là pour embêter les autres. Voilà, moi, on me demandait de rendre un service, je le rendais avec plaisir, sans rien demander en retour. J'embêtais personne, j'essayais pas de m'approcher des problèmes. Et en sachant que j'ai grandi, moi, dans le sud de la France, et on est venu emménager dans cette campagne-là, et donc nouvelle école, et j'ai entamé une nouvelle année scolaire. J'arrive en janvier dans cette nouvelle école, donc l'année, même si ça ne fait que 3 mois qu'elle est entamée, les relations dans le collège, les relations entre collégiens, tout le monde a déjà ses amis, tout le monde a déjà ses petits groupes qui se sont dessinés, etc.
Juste pour précision, excuse-moi, tu quittais le sud pour aller en Auvergne, c'est ça ?
Voilà, donc gros déménagement, La rentrée étant en septembre.
Ce qui est jamais simple.
Des groupes sont déjà faits, les amitiés sont déjà faites, il y a déjà eu des histoires, il y a déjà eu des petites choses qui se sont passées. L'année même scolaire, en tant que telle, en tant que programme scolaire, est déjà bien entamée. Donc il faut se réhabituer très vite à un nouveau fonctionnement, à des nouveaux profs. Mon seul but, c'est de rattraper cette année, de rattraper les petits mois que j'ai manqués. Je suis assez discrète, quoi. Mais je suis très vite vue comme la nouvelle.
La fameuse étiquette, où on t'appelle pas par ton prénom, mais la nouvelle.
Voilà. Il faut savoir une chose aussi, qui est assez marquante chez moi, mais qui l'a été aussi, enfin, qui l'a surtout été à cette période-là. Il faut savoir que mon arrivée dans ce village-là a été comme l'arrivée de la famille dans Bienvenue à Marly-Gaumont.
Oui. Je vois le genre. Tu t'attendais à Paris et puis tu te retrouves dans un petit bled où il n'y a vraiment pas grand-chose.
Ouais, il y a ça. Et surtout que nous, on est d'origine tunisienne. C'est-à-dire que nous sommes un peu typés. Nous arrivons à la campagne face à des gens qui n'ont jamais vu d'autres gens qu'eux-mêmes. Et donc,
un choc visuel.
Bon. Et donc, j'étais la nouvelle. Et j'étais la typée. Donc, ça fait pas un bon mélange. Et donc, tout de suite, catégorisée, mais tout de suite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de transition, de petit à petit, non. Ça a été vraiment tout de suite. Et mon quotidien, pour le coup, a été vraiment un enfer dès que je suis arrivée. Des gens m'ont ciblée, tout simplement. Et des gens...
Des garçons, des filles ?
Non, c'était vraiment plus des filles, pour le coup. étonnamment, c'était vraiment plus des filles. Enfin, je saurais pas pourquoi. Ben, j'ai pas de réponse à ça, mais étonnamment, c'était vraiment plus des filles. Les garçons, bon, ils allaient suivre le groupe, ils allaient suivre la popularité. Donc forcément, il y en avait qui allaient suivre le mouvement, mais pas tous. Beaucoup étaient quand même très gentils. Voilà, je veux dire, ça restait enfantin par rapport à ce que je vivais avec ces filles-là.
Et ça ressemblait à quoi, ces prises en grippe ?
Alors, c'était surtout des insultes verbales. Ça a commencé comme ça. Donc, pour moi, bah écoute, tu m'insultes, je vais faire genre j'entends pas. Comme ça, je vais passer à autre chose. Pour moi, c'était pas le plus grave. Je veux dire, les insultes, bon, bah écoute, tu m'insultes, c'est pas grave. Écoute, insulte-moi, ça va rien me faire. Après, ça venait un petit peu plus physique, c'est-à-dire qu'on me lançait des choses dans la classe. Là, on voulait vraiment m'interpeller et on voulait vraiment attirer mon attention. Parce qu'on voyait justement que les insultes, ça marchait pas. Et que j'allais pas me retourner parce qu'on allait me lancer telle ou telle insulte. On commençait à me lancer des choses. On commençait à vraiment à me bousculer. C'était vraiment, il fallait que je réagisse. Il fallait que je rentre dans leur jeu. J'arrivais pas à les insulter en retour, c'était pas moi. La moitié des insultes, je savais même pas ce qu'elles signifiaient, pour te dire à quel
ça
point...
Ça ressemblait à quoi, justement, ces insultes ? C'était en raison de tes origines ? Ou c'était le classique connasse, salope, j'en sais rien ?
Oui, bah, y avait de ça. Et après, les insultes racistes, parce qu'il y en a eu, ont été surtout déclenchées quand on a appris en cours d'histoire tout ce qui est autour du génocide des Juifs et de la Seconde Guerre mondiale. Parce que moi, j'ai des origines tunisiennes, mais c'est surtout, j'ai des origines juives séfarades. Donc, c'est un sujet qui me touchait particulièrement et ça s'est su très vite. Malheureusement, dans les petits collèges comme ça, dans les petites villes comme ça, hein, c'était vraiment, pour le coup, à l'échelle du village que ça s'est su. On a commencé à apprendre le génocide et toute l'histoire autour de cette communauté-là. Là, ça a commencé à être des insultes racistes. Pour le coup, ça a commencé à me viser, pas me viser moi en tant que personne, mais à me viser moi en tant que membre, entre guillemets, d'une communauté. Je ne suis pas religieuse, mais c'est mes origines.
Oui, on tendait clairement vers l'antisémitisme.
C'est ça.
Décomplexé, puisqu'on est extrêmement con à cet âge-là, on le sait tous.
Maintenant que j'y repense et que j'en parle avec toi, je me dis, mais à quel moment, à cet âge-là, on a ces idées-là ? À quel moment, à ces âges-là, on va penser que quelqu'un serait mieux mort ? Je veux dire, la période du collège, on a entre 11 et 14 ans. Ouais, 10, 14 ans, 13 ans, 14 ans, peu importe. Mais je veux dire, à quel moment on souhaite la mort de quelqu'un, en fait ? Ben, on m'a dit quoi ? On m'a dit, ils t'ont oublié.
C'est d'une horreur sans nom. Ça rappelle des insultes qu'on a pu entendre récemment concernant la Miss France, tu sais, pardon, l'une des candidates de Miss France, Miss Provence, pareil, qui avec des je devrais même pas répéter ça, mais des abrutis sur Twitter qui ont dit en gros qu'on n'avait pas fini le travail d'Hitler. Enfin, c'est d'une ignominie évidemment qui fait peur. Mais ça commence très jeune, finalement, de par ce que tu nous racontes.
Et surtout, c'est que pour le coup, c'était pas anonyme. On n'était pas sur Twitter. On n'était pas caché derrière un pseudo et une pauvre photo de profil. Non, on était sur des personnes qui me le disaient en face. C'est-à-dire que j'avais un nom. J'avais une personne, un visage. Je les connaissais pas, ces gens, parce que pourquoi j'apprendrais à les connaître ? Ça m'intéresse pas. Mais j'avais une identité, quoi.
Et ces insultes-là, elles étaient frontales, donc c'est ce que tu nous expliques, mais est-ce que c'était en loose day, si je peux me permettre l'expression, tu sais, en classe, discrètement, on chuchote ça, ou dans la cour de récré, on te prend dans un coin pour te balancer ça. Est-ce que c'était toujours à l'abri d'autres regards ?
À l'abri, oui et non, parce que c'était à l'abri des profs, des supérieurs, évidemment. Se faire choper en train de dire ça, c'est pas forcément la bonne idée. Mais ce n'était pas à l'abri des autres, en sachant que la puissance de ces petits groupes, c'était justement le nombre de personnes qu'ils étaient. Plus on est de fous, plus on rit. C'est vraiment ça. C'était vraiment, écoutez, venez voir. Celle-là, on va la maltraiter, en fait. Celle-là, c'est notre cible. Donc venez, rejoignez-nous, c'est plus rigolo. Parce que du coup, elle est toute seule, on est 15.
L'effet de masse.
Et ça, pour les collégiens, c'est ce qui marche le plus. Et je ne suis pas sûre, honnêtement, que si tu ne fais pas partie de ces groupes de popularité, je ne suis pas sûre que tu passes de bonnes années au collège. honnêtement.
C'est fou ce que tu me décris. J'ai l'impression que tu me parles de quelque chose aux États-Unis, tu sais, avec la cheerleader populaire et tout. Pour moi, ça n'existe pas ça en France. Enfin, je sais pas. Je trouve ça surréaliste.
Ben, je pense que ça existe vraiment dans des petits collèges. Pour le coup, tu vois, j'étais vraiment un extraterrestre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un de typé comme moi. Et pourtant, je ne suis pas très typée. Enfin, même, peu importe la question, en fait. Je veux dire, peu importe.
Pour eux, tu faisais tâche dans le décor.
C'est ça, en fait. C'est ça. Surtout que c'était vraiment que de l'apparence physique. Parce que je ne leur avais jamais adressé un mot. Comme je te le disais, je devais rattraper les 3 mois que j'avais manqué dans cette école. Donc, pour l'instant, mon objectif n'était pas forcément de m'intégrer, mais de suivre le cours et de suivre le programme que j'avais manqué. Parce que c'était moi, je veux dire, moi j'ai toujours été une bonne élève impliquée dans mes cours, toujours essayé d'avoir des bonnes notes. Voilà, il n'y a rien qui me décrit plus que ça. C'était vraiment du, ben écoute, toi tu vas devenir la cible.
Vous dormez ici ?
Cutter a dit que je pouvais jusqu'à ce qu'on trouve du travail. Qu'est-ce que vous faites ?
Des recherches. Il faut qu'un magicien surveille ce que font ses concurrents pour savoir quelles illusions
C'est contre cet homme que vous préparez quelque chose. Cutter espère que vous ferez une trêve. Il dit que si Borden pense que vous êtes quitte, peut-être qu'alors...
Être quitte ? Ma femme contre 2 misérables doigts. Il a une famille aujourd'hui, d'accord ? Il est remonté sur scène. Borden est là, dehors, vivant la vie qu'il a toujours souhaitée comme si rien ne s'était passé. Et regardez, regardez-moi ! D'accord ? Je suis seul. Et aucun théâtre ne veut de moi.
De nous ? Il va vous falloir un meilleur déguisement.
J'ai essayé de trouver un parallèle entre le film qui t'a marqué, à savoir Le Prestige, et ce que tu subissais au collège. Et il y a un mot qui m'est venu à l'esprit et qui parcourt le film du début à la fin, c'est celui de sabotage. C'est-à-dire que les magiciens, donc l'affrontement Christian Bale-Hugh Jackman, c'est se saboter les tours de magie de l'autre. Mm. Et le parallèle qu'on peut faire avec ce que tu vivais au collège, c'est que ce groupe, cet effet de masse emmené par les filles les plus populaires du collège, était là finalement pour saboter ta vie scolaire. Est-ce qu'avec le recul, tu as peut-être toi aussi fait ce parallèle ?
Peut-être que maintenant, en prenant du recul, en ayant vu le film plusieurs fois, peut-être que je pourrais le faire ce parallèle. Mais quand la première fois que je l'ai vu, et pendant que je vivais ça, j'étais vraiment en plein dedans, c'était vraiment pas le but. Pour moi, c'était devenu vraiment une peur d'aller à l'école. C'est-à-dire que c'était pas de la mauvaise foi en disant « j'ai pas envie d'y aller, ça me saoule ». Non, j'avais peur d'y aller. Ça me rongeait vraiment de penser à l'école. Et en tant que collégien, on passe la plupart de son temps à l'école. C'est-à-dire qu'on se fait des journées immenses. Le seul temps libre qu'on a, c'est le week-end et les soirées. J'essayais de me regarder vivre, quoi. Je me disais « c'est pas possible, on va pas rester comme ça ». Parce que je ne vais pas les laisser gagner.
Cette période, est-ce que tu étais fortement isolée ou est-ce que tu avais des alliés quand même au collège ?
Non, pour le coup, j'étais isolée.
Par des travaux de groupe, tu n'as pas pu sympathiser avec d'autres camarades de classe ?
Non. Non. Pour le coup, tu vois, même si tout le monde ne m'embêtait pas, tout le monde ne me balançait pas ces insultes-là, tout le monde parlait. Et donc, j'étais mal vue par tout le monde. Même si les gens ne m'embêtaient pas, si les gens me laissaient tranquille, j'étais mal vue. Pour eux, j'avais déjà mon étiquette, en fait. Et c'est ça, le collège. C'est, on va mettre les étiquettes. Alors, la populaire, le geek, le renfermé, le fantôme, tout ce que tu veux. Moi, j'étais l'étiquette du martyr, en fait. J'étais vraiment le... Voilà, elle, on va pas la louper. Pour te dire aussi, c'est que j'ai mis 1 à 2 ans avant d'en parler à mes parents, de ça.
J'allais y venir. Quand tu rentrais de ces semaines interminables, de ces journées et de ces semaines interminables, en gros, si tu n'en as parlé que 1 an ou 2 ans après à tes parents, c'est qu'il y a une dissimulation. Comment on cache ça ? Comment on cache un truc aussi lourd à 12-13 ans ?
Parce qu'en fait, on se sent coupable. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai forcément dû faire un truc parce que on m'a attaqué. On est une centaine dans le collège et c'est moi qu'on attaque. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'irais le dire à mes parents sachant que c'est peut-être de ma faute ? On pense que c'est de notre faute et on se sent hyper coupable. Et comment dissimuler ça ? À partir du moment où j'avais quand même des bonnes notes, je parlais du contenu des cours à mes parents. Aujourd'hui j'ai appris telle chose. Je faisais en sorte de camoufler pour pas avoir ces questions autour de des amitiés, des gens autour de moi. Ah bah tiens, j'ai mangé ça à la cantine. Ah bah oui, c'était très bon. On me demandait pas, bah t'as mangé avec qui ? Non, non, parce que moi, je ciblais ma conversation sur, ben j'ai bien mangé à midi. Je faisais en sorte de parler de mes cours, de ce que j'apprenais à l'école. Je révisais mes cours avec ma maman. Pour le coup, je pense que j'ai survécu avec cette obstination que j'avais d'avoir des bonnes notes. Et donc, plus tard, d'avoir des choix d'orientation plus ouverts, on va dire.
Ça t'aidait à tenir et à continuer de focaliser, toujours ce souci de focaliser sur autre chose que ce que tu subissais. Je vois à peu près de ce que tu décris.
Toutes mes condoléances, Angier. Quel nœud avez-vous fait ? Je n'arrête pas de me poser la question. Alors, je suis désolé, je crois que je l'ignore. Vous l'ignorez ? Vraiment désolé. Vous l'ignorez ? Vous l'ignorez ?
Mais quand même si dans la parole on dit certaines choses, le corps peut nous trahir. Je suis certain que des crises de larmes devaient te guetter forcément à certains moments quand on rentre du collège et qu'on subit ça à longueur de journée.
Bah, oui, sauf que voilà, je pleurais pendant les trajets à pied avant de rentrer à l'école. Une fois arrivé devant la maison, c'était fini. Je pleurais avant de dormir. Après, c'était fini.
Et les parents ne voyaient jamais les yeux rougis.
Il y a un moment où ils se sont doutés des choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à m'intégrer, de manière générale. Ça a toujours été un problème pour moi. Et c'est vraiment là où le harcèlement a un petit peu fait ressortir des choses plus importantes, en fait. A fait ressortir, on va dire, ces phases-là que je devais cacher. Le fait de ne pas être intégrée au groupe, le fait de ne pas d'avoir peur d'aller dehors, quoi. J'avais cette insécurité tout le temps. Et souvent, on le justifiait par le fait que je ne m'intégrais pas et que j'avais du mal à m'intégrer. Et que du coup, j'avais du mal à aller vers les autres. Et donc, on ne le justifiait pas forcément par le fait qu'on me maltraitait à l'école.
Évidemment, c'était plus possible de continuer d'encaisser ça.
Oui.
Le déclic est arrivé au bout de combien de temps ? Tu vois, j'essayais un parallèle avec le film parce que je te dis, ils se sabotent l'un et l'autre. En fait, il y a un qui attaque d'abord, il y a un premier qui attaque, et puis il y a un autre qui riposte. Alors, c'était à ton tour aussi de riposter. Et l'entreprise de répondre enfin et d'en parler, de mettre des mots dessus, ça a commencé quand ?
À cet âge-là, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire le mot racisme. Je veux dire, on l'entend aux infos, bon. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et il y a eu un épisode assez marquant. Le moment où on m'attaquait de plus, c'était au cours de sport. C'est-à-dire que nous, on avait accès à un grand gymnase où on pouvait faire nos cours de sport. Et on était souvent avec plusieurs classes en même temps. Voilà, il y avait plusieurs profs de sport et donc plusieurs classes en même temps. Et donc, il y avait l'accès aux vestiaires. Les vestiaires, ça a été un enfer parce qu'il n'y a jamais de surveillance par des adultes à ce moment-là. Et dans le gymnase en lui-même, le gymnase est trop grand pour qu'un adulte puisse avoir les yeux partout. Et je me rappelle de ce jour-là, c'était de la gym, c'était des petits ateliers de gym, c'est-à-dire un exercice, un petit atelier, on tourne, voilà, on était 2-3 par petits ateliers, on tourne comme ça. Moi, n'étant pas très bonne en sport, on se moquait facilement de moi. Je veux dire, c'était facile de se moquer de moi parce que pour le coup, le sport, c'était vraiment la seule matière pour lequel j'avais vraiment du mal, quoi. Faire une roulade, une roue, la rondade, ce que tu veux, j'y arrivais pas. Bon. Et ça a été à ce moment-là qu'on a commencé à m'attaquer physiquement. C'est-à-dire qu'on m'a fait tomber d'une poutre, l'espèce de poutre là où tu dois faire...
Les longues poutres marron, oui. Où
ouais,
tu dois garder l'équilibre dessus et la traverser, ouais.
Donc, sachant que ça, pour le coup, c'était un exercice qui était l'enfer pour moi. C'est-à-dire que j'ai le vertige et que... Tenir sur mes deux pieds, c'est compliqué.
Non, mais c'est l'enfer pour tout le monde, la poutre, c'est horrible. En plus, Enfin, pour un mec en plus à cette époque-là, ado, quand t'as pas de grâce, tu vois, ouais, justement, t'es plus lourd qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est, esthétiquement, c'est zéro, quoi.
Et c'est, en plus, moi, je comprends pas pourquoi on insiste autant, parce que bon, tu vas pas répondre à un entretien d'embauche en faisant la roue. Bon.
À part pour les futurs gymnastes, ouais.
Ouais, voilà, à part pour les. Mais ce n'était visiblement pas mon cas. et donc, voilà, ça a été ce jour-là où on m'a attaqué physiquement. Et ça a été aussi ce jour-là où j'ai osé en parler au prof, parce que j'avais mal. Physiquement, j'avais mal. Donc, je suis allée voir le prof. Je lui ai dit.
Est-ce que tu as eu une oreille attentive ?
Bah, justement, non. Parce que c'était la première fois que j'osais aller voir un prof, que j'allais lui parler. Pour moi, c'était un effort surhumain de faire ça. Et je lui ai dit, monsieur, on m'a fait mal. J'ai mal, il faudrait que je fasse une pause, on m'a fait mal. Comment tu t'es fait mal ? Bah, on m'a poussé de la poutre. Et forcément, bah, quand on dit ça, il s'est moqué de moi. Comment ? Personne ne t'a poussé de la poutre, tu n'y arrives juste pas, en fait. Tu es tombée toute seule, t'as perdu ton équipe, tu n'y arrives pas. Bah écoute, c'est pas besoin d'inventer une excuse comme ça, tu n'y arrives pas. Pourquoi t'irais dire que quelqu'un t'a fait tomber ? C'est quoi cette excuse ? Bon, on m'a pas cru. Ça m'a fait vraiment, vraiment mal, en fait. Parce que c'était vraiment un effort surhumain. Et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à ma mère qui m'a tout de suite cru. Parce que ce n'était pas du tout mon genre de me plaindre ou de trouver des excuses pour faire ou ne pas faire. Elle connaissait mes difficultés en sport. Mais elle savait que de toute façon, j'allais pas abandonner et que je me donnais quand même les moyens de le faire.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ta mère réagit, elle est frappée par ce que tu dis, elle dit « ma fille n'est pas du genre à se plaindre ». Elle a dû se retourner bien sûr vers des responsables au collège, peut-être le professeur principal dans un premier temps. Comment ça s'est déroulé ensuite ?
Ensuite, elle est déjà allée voir ce prof de sport-là. Étant donné que nous venons du Sud, nous avons un très très fort caractère. C'est-à-dire qu'on a, on pousse la voix très facilement.
Les Méditerranéens, on le sent chaud.
Et elle a réglé ses comptes avec le prof de sport. Et bon, on a gagné, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il s'est excusé et il a considéré ce que je lui avais dit, etc. Bon, ça s'arrête là. Sauf que ma mère comprend qu'il n'y avait pas que ça et qu'on ne m'a pas poussé par hasard. Donc, on va aller chercher plus loin. Et c'est là que j'arrive à tout avouer, à lui dire tout ce qui se passe. Elle m'explique à ce moment-là ce qu'est le racisme et ce qu'est l'antisémitisme. Des mots que je ne connaissais pas forcément. Elle me l'explique. Elle me dit que c'est condamnable par la loi, que c'est illégal et que à cet âge-là, on ne devrait pas faire ça. En fait, c'est comme si elle me donnait une définition de tout ce que je vivais à ce moment-là. Ensuite, elle a voulu que moi-même, j'aille voir mon prof d'histoire. Pourquoi le prof d'histoire ? Parce que ce n'était pas du tout de sa faute, mais c'est son cours à lui qui a déclenché l'antisémitisme de la part des autres.
Ta mère a quand même mis des mots précis. Tu étais face à une porte fermée, elle t'a donné toutes les clés pour l'ouvrir. Le fait de parler d'illégalité, le fait de parler... la façon dont elle a exprimé, c'est l'ancien étudiant en droit qui parle. On a l'impression d'entendre une juriste. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux questions juridiques ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour justement dégager ça, expliquer ça à sa fille ?
Elle est éducatrice sociale. Ah ben voilà. Sociale.
Oui.
En fait, je pense que son but, c'était surtout de me dire et de me faire comprendre à quel point c'était grave. Et de me permettre de savoir que ce n'était en aucun cas de ma faute et que ce n'était en aucun cas normal. Je pense que le fait de mettre des mots là-dessus et de m'expliquer un petit peu de manière scolaire, un petit peu de manière académique avec des définitions du dictionnaire, que ben justement, si ces mots existent, s'il y a une loi qui existe, tu n'es pas censé vivre ça. J'étais trop jeune pour me rendre compte de la puissance de ces mots-là. C'était pas le but, je ne pense pas. Pour moi, c'était vraiment de me dire que ce n'est pas normal de vivre ça, que beaucoup de gens aussi le vivent, et que ces gens-là, ils ont le droit, ils ont la possibilité de faire quelque chose face à ça, et qu'ils seront gagnants de toute façon.
Oui. C'est lui qui involontairement a délivré des informations aux autres camarades de ta classe qui ont pu se défouler ensuite sur toi.
Voilà. Bien sûr, ce ne sera jamais de sa faute, mais voilà. C'est le premier prof que je vais voir, que j'arrive à voir. Et ça, c'était pas gagné, mais je l'ai fait. La réaction qu'il a eue, c'était d'aller en parler à tous les profs. Bon, c'est un choix qu'il a fait. Il y a eu des concertations, il y a eu des discussions. À ce moment-là, on me dit, c'est sa parole contre les leurs. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on me croit toujours pas. Même après tout ce qui s'est passé, eh ben, on me croit pas. Parce que justement, on pense qu'un collégien n'est pas capable d'avoir ce genre de pensée-là. Et que justement, un collégien, bah, pourquoi il irait dire ça? Ok, il y a des enfantillages, il y a des chamailleries, mais on me dit, bah écoutez, le problème, c'est que certes, on n'a pas de preuves, ça c'est vrai, j'avais pas de preuves physiques, à part si on me mettait une caméra autour du cou pendant toute la journée, ou des micros partout dans le collège, c'était évidemment pas possible. Donc on me dit, c'est sa parole contre celle des gens qui m'ont pété, quoi.
Il y a certains établissements qui ont des caméras de vidéosurveillance dans les cours de récré. Si tu étais emmerdé pendant la récré, ça pouvait se voir.
Mais là, pas du tout le cas, là.
Ce qui fait peur, c'est qu'on est en 2010, ce que tu racontes. C'est pas vieux. Moi, j'étais au collège dans les années 90, donc je peux comprendre qu'on accordait moins d'importance à ça. Ce qui me dépasse, c'est que c'est récent. C'est pas si vieux que ça, en fait. Alors, comme vous avez pu le constater, Alice avait vraiment besoin de temps pour évoquer son histoire, et parce que le sujet est lourd, je ne me voyais pas la presser pour des raisons de timing, c'est la raison pour laquelle je vous propose de poursuivre l'écoute de cette conversation avec Alice dans une seconde partie qui sortira pile dans une semaine. Le podcast n'est pas encore fini, non, on n'appuie pas tout de suite sur le bouton stop, parce que comme promis en début d'émission, je poursuis ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos gentils messages. Laissez cette fois sur Podcast Addict un message de Mélissa Pops, très joli pseudo Mélissa, qui m'écrit « Podcast original nous permettant de nous replonger dans les films analysés, et cela sous un angle très intéressant qui est celui d'une œuvre à caractère général sur la vie d'un individu. Une très bonne idée pour Mélissa. L'émission est d'ailleurs construite de façon intelligente avec des extraits de films nous remémorant avec plaisir des passages que l'on aurait oubliés. Bah, merci beaucoup Mélissa Pops pour ton message, ça me touche beaucoup de voir que mon boulot sur ce podcast vous plaît. Faites comme Mélissa et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict et c'est peut-être votre message que je lirai prochainement. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que les 15 précédents sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram, le film qui a changé ma vie. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Ciao.